Chapitre 12. Tu as mis le temps, reprocha Santos. Je commençais à m'inquiéter.
Je ne t'ai pas entendu, mentit Nikki. Elle s'effaça pour le laisser entrer, mais il s'arrêta net en découvrant l'appartement dévasté.
Que s'est-il passé? Une tornade a traversé ton salon?
Prise au dépourvu, elle ne sut que répondre. Elle sentit son cœur s'accélérer tandis que de fines gouttes de transpiration perlaient sur son front.
Je faisais un peu de ménage, c'est tout.
Tu te fous de moi? Sérieusement, Nikki?
Elle perdait pied. Vu l'état de l'appartement, elle ne réussirait pas à le convaincre.
Tu m'expliques? Fit-il pressant.
En provenance de l'escalier, la voix persuasive de Sébastien sonna comme une délivrance.
On s'est disputé, ça arrive, non?
Hébété, Santos se retourna pour découvrir le nouveau venu.
Surjouant le rôle de l'ex-mari jaloux, Sébastien s'était composé un visage agressif. « Vous appelez ça une dispute ?» dit le flic en montrant du doigt le salon saccagé.
Gêné, Nikki les présenta l'un à l'autre. Les deux hommes se saluèrent d'un bref hochement de tête. Sébastien essaya de masquer son étonnement, mais en vérité, il était un peu surpris par l'apparence de Santos. L'autre le dépassait d'une tête. Métis, bien bâti, les traits fins, il n'avait rien du flic bourrin et brutal. Son costume bien taillé, qui devait coûter la moitié de sa paie mensuelle, sa coupe de cheveux nette, son rasage impeccable, lui donnaient une allure soignée qui inspirait confiance.
« Il n'y a plus une seconde à perdre, » déclara-t-il en fixant les deux parents. « Je ne veux pas vous inquiéter, mais 3 jours sans nouvelles d'un ado, ça commence à faire beaucoup. »
Il déboutonna machinalement sa veste en poursuivant d'un ton docte.
« Les affaires de disparition sont gérées par les autorités locales. » Sauf si l'enquête dépasse les limites d'un seul État ou lorsqu'il s'agit de la disparition d'un mineur. Dans ce cas, c'est le FBI qui intervient par l'intermédiaire du CARD, le Child Abduction Rapid Deployment. J'ai un contact là-bas, je l'ai appelé, pour lui signaler la disparition de Jérémy. Ils nous attendent à leur QG à Midtown, dans le MetLife Building.
Ok, on te suit, décida Nikki.
Moi, je prends ma voiture, tempéra Sébastien.
C'est stupide! « J'ai mon véhicule de service, on évitera les embouteillages grâce au gyrophare. »
Sébastien jeta un bref coup d'œil à Nikki.
« On te rejoint tous les deux là-bas, Lorenzo. »«
Très bonne idée, » ironisa-t-il. « Perdons encore davantage de temps. »
Comprenant qu'il ne parviendrait pas à les faire changer d'avis, il se dirigea vers la porte.
« C'est votre gamin, après tout, » dit-il en claquant le battant.
La sortie du flic ne fit retomber ni la tension ni la confusion. Restés seuls, Nikki et Sébastien se retrouvèrent face à leurs hésitations. Tétanisés par la peur de prendre la mauvaise décision, ils avaient du mal à analyser les informations qu'ils avaient mises au jour. La fugue de Jérémy, son goût pour le poker, la découverte de la drogue. Par réflexe, ils remontèrent dans la chambre de leur fils. In extremis, Sébastien était parvenu à déboucher les toilettes avec le manche d'un balai brosse. Si à présent toute trace de drogue avait disparu, cela ne reléguait pas pour autant l'épisode au rang de mauvais rêve. À la recherche d'un indice, il examina plus attentivement la mallette en aluminium et son contenu. Aucun double fond, aucune inscription particulière, ni sur les cartes à jouer, ni sur les faux jetons en céramique. L'intérieur du boîtier était revêtu d'une doublure en mousse alvéolée garnie d'une poche. Il y passa la main, vide. À l'exception d'un sous-verre en carton. Au recto, une publicité pour une marque de bière. Au verso, le dessin d'une lame recourbée en signe stylisé d'un débit de boisson. Bar, le boomerang, 17 Frederick Street, Bushwick, propriétaire, Drake Decker. Il tendit le sous-boc à Nikki. « Tu connais cet endroit ?» Elle secoua la tête. Il insista. « C'est sans doute là qu'il jouait au poker, non ?» Il chercha son regard, mais il l'avait perdu. Très pâle, grelottante, les yeux brillants figés dans le vide, Nikki semblait avoir lâché prise.
« Nikki ! » cria-t-il.
Elle sortit brusquement de la chambre. Il la rattrapa dans l'escalier et la suivit dans la salle de bain où elle avalait une barrette d'anxiolytique. Il la prit fermement par l'épaule.
« Ressaisis-toi, s'il te plaît !»
Il s'efforça de lui exposer son plan d'une voix calme. « Voilà ce que nous allons faire. » Tu vas décrocher le panier du sidecar, puis tu iras en moto à Manhattan. Le plus vite possible. Il faut que tu interceptes Camille à la sortie de son école. Il regarda sa montre. Elle termine à 14 heures.
Si tu pars maintenant, tu pourras y être à temps. Il n'y a qu'en deux roues que c'est jouable.
Pourquoi t'inquiètes-tu pour elle ?
Écoute, je ne sais pas ce que faisait cette coque dans la chambre de Jérémy, mais les types à qui elle appartenait veulent la récupérer, c'est évident.
Ils savent qui nous sommes ?
Oui, ils connaissent ton adresse et sans doute la mienne. Nous sommes donc tous en danger, toi, moi, Jérémy et Camille.
J'espère avoir tort, mais autant ne pas prendre de risques.
Paradoxalement, la verbalisation de cette nouvelle menace sembla la ragaillardir.
Où veux-tu que je la conduise ?
À la gare. Tu la mets dans un train pour East Hampton et tu l'envoies chez ta mère, devina-t-elle.
Là-bas, elle sera en sécurité.